Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus disponibles pour ce dernier conseil municipal de l'année 2021. Je voulais déjà présenter les excuses de Florence Joly qui donne une procuration à Michel Bisaccia et de Hugo Rodriguez Souza qui me donne procuration. Avant de commencer ce dernier conseil, je voudrais accueillir et lui demander de se présenter notre nouveau correspondant de presse pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Un inconnu ou connu peut-être de nombreux d'entre vous, en la personne de Bernard Charrière. Bernard, tu peux nous dire un petit mot pour te présenter ?
Oui, bonsoir d'abord et... Comme vient de dire Christian, tout le monde me connaît pratiquement, à part deux ou trois personnes, parce que j'ai été quand même élu deux mandats, donc 12 ans à Saint-Priest-en-Jarez. Et puis là, j'ai trouvé une nouvelle activité en faisant correspondant de presse. Donc je vais essayer de faire des beaux articles. Vous aurez l'occasion de voir sur le journal et vous pourrez mettre des appréciations. Très bien, assez bien. Peut mieux faire éventuellement, bon. Tout est permis. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que je suis heureux de voir que tous les gens qui m'ont vu arriver, là, on m'a dit, on est content que ce soit toi qui reprenne ce travail. Et ça me fait vraiment plaisir et ça me motive en plus parce que là, je suis obligé quand même de bien bosser parce que je ne voudrais pas vous décevoir.
Alors, si je veux mettre une appréciation, ça serait plutôt « doit persévérer dans ses efforts ». Alors, merci en tout cas parce que pour la première fois ce matin, on avait un encart dans la presse qui annonçait le conseil de ce soir avec les points importants. Ça, c'est un petit peu nouveau. Ça peut aussi inciter les habitants à dire, tiens, il y a un conseil ce soir, ils vont parler de ça, je vais aller faire un tour. Voilà, en tout cas, merci Bernard et bienvenue parmi nous.
Alors, ce que je disais, bien sûr, vous connaissez le principe, c'est que quand on est correspondant du journal, si on envoie des articles intéressants, il les passe. Si on n'envoie rien, évidemment, il ne passe rien. Et si on envoie des articles qui n'intéressent pas, il ne passe pas. Alors, si vous avez des bonnes idées, je serai preneur, bien sûr.
On va travailler avec Bernard dès la semaine prochaine. En fait, le progrès anticipe déjà le fait que certains vœux aux populations pourraient ne pas se dérouler en présentiel. Et donc, avec Bernard, on va travailler un petit peu sur un schéma des vœux, c'est-à-dire très concrètement ce qui s'est passé l'année et ce qu'on peut éventuellement et prudemment annoncer pour l'année à venir. Donc, comme ça, au moins, si la situation se dégradait, on aurait au moins une info presse. Je pense que ça va être une thématique globale dans le progrès, commune par commune. Donc, comme d'habitude... J'oublie toujours, mais c'est important. Je vais demander à Mireille d'être la secrétaire de séance. Voilà. Approbation, le premier point, donc c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des remarques à faire sur ce procès-verbal que vous avez dû recevoir il y a à peu près une semaine ? Donc on va l'approuver. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui l'approuve ? À l'unanimité. Le second point, c'est en administration générale, c'est l'état des décisions du maire. Donc, ça sera le dernier état pour l'année 2021. Ce sont les décisions qui vont de la 58B à la 66. Parmi ces décisions, j'attirerai votre attention sur la première, qui est le contrat d'abonnement au service SAAS pour la relève des compteurs d'eau avec la société e-tron France du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Le montant TTC, 2 667,30 €. Après, c'est fini. Après, c'est fini parce qu'on en reparlera. Mais au 1er octobre, on passe en délégation de service public pour la gestion de l'eau. Donc, le délégataire sera choisi vraisemblablement avant le printemps par Saint-Étienne Métropole. Il prendra donc ses fonctions de gestion de l'eau à partir du 1er octobre. Il y aura une période de montée en puissance à partir du 1er juillet. Ça veut dire que la relève des compteurs... qui fait l'objet de ces derniers contrats, va disparaître en termes de dépenses communales. Bien évidemment, le nouveau concessionnaire aura à gérer la relevée des compteurs avec une première interrogation. c'est est-ce que ça sera de la télérelève ou de la relève automatique? C'est-à-dire, si ça doit être de la télérelève, ça veut dire que bah, tous les compteurs d'eau vont être changés. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est déjà une des toutes premières questions de cette problématique de délégation de services publics, mais on en reparlera. Avez-vous d'autres interrogations en ce qui concerne ces décisions? Alors, vous pourriez dire, hein, 66 décisions pour l'année, il n'a pas beaucoup bossé le maire. Hein. Non, ce sont les décisions qui amènent effectivement une information dédiée au conseil municipal au regard de la délégation que vous m'avez confiée. Le point suivant, c'est la signature d'une convention de prise en charge des animaux errants trouvée sur le territoire de la commune de Saint-Priant-Jarret avec le chenil des pins. Je vais passer la parole à Antoine Di Paolo.
Oui, bonsoir. Monsieur le maire expose, lors de la séance du 14 décembre 2020, le conseil municipal avait décidé de passer une convention de prise en charge des animaux errants, ce sont les chiens et les chats, trouvés sur le territoire de notre commune avec le chenil des pins. Donc, entre les sous-signés, le chenil des pins situé au Chambon-Feugerolles et la commune de Saint-Priant-Jarret, rue Claudius Côtier. Article 1. La ville de Saint-Priant-en-Charret, ne disposant pas de fourrière animale, confie au chenil des pins les missions suivantes, sur demande expresse des services municipaux, de la police nationale ou des pompiers. La capture, quand celle-ci est possible, des chiens et des chats divagant sur la commune, le transport de la mairie ou du lieu de capture de l'animal au chenil et du chenil à la SPA de Saint-Étienne. Je vous communique les tarifs des prestations qui ont légèrement augmenté. Le paiement des prestations fournies sera réglé par la ville de Saint-Priant-en-Jarret et se fera sur présentation d'une facture détaillée selon les tarifs suivants. Capture de chiens vagants, forfait 50 euros, incluant la prise en charge et le déplacement, véhicule et matériel de capture compris. Capture d'un chat, forfait 30 euros au lieu de 25 euros l'année dernière. Hébergement de chiens, 10 euros la nuit, nourriture comprise au lieu de 9 euros l'an passé. Hébergement de chats, 9 euros au lieu de 8 euros l'an dernier. Transport ou déplacement non suivi de prise en charge du chien ou du chat, 10 euros. Une adhésion de 180 euros est versée au 1er janvier de chaque année pour moins de 40 animaux. Cette convention arrive à échéance. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention avec le chenil des pins et d'autoriser monsieur le maire à la voter.
Vous avez des questions sur cette proposition de décision? Donc vous avez compris, hein, c'est une reconduction de convention. Bon, on a toujours un problème, hein, pour les chiens et chats divagants. Compte tenu de l'amplitude d'intervention proposée par ce chenil, ça, c'est du lundi au vendredi, donc il n'y a pas d'intervention de nuit, il n'y a pas d'intervention le week-end, ça nous pose toujours un problème. Et Christine dirait que chaque fois qu'elle est astreinte, elle est appelée parce qu'il y a un chien, et c'est en soirée ou le week-end. Bon, c'est des questions qu'on tourne un petit peu dans notre tête, peut-être qu'on fera émerger une solution intermédiaire dans la durée. On aurait préféré avoir quand même un partenaire qui soit sur une séquence horaire beaucoup plus importante. On n'a que celui-là pour l'instant qu'on peut solliciter. Bien évidemment, si d'autres opportunités se présentaient dans l'avenir, on reviendrait dans vous. Donc par rapport à la reconduction de cette convention, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc reconduction à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est la convention de mise à disposition d'un parking par le CDAT à la commune. Et je passe la parole à Claude Bruno.
Oui, bonsoir. Donc, cette délibération du 3 mai 2021, vous vous en souvenez sans doute, au cours de laquelle le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition par le centre départemental d'aide par le travail à la commune de Saint-Priant-Jarret d'un parking qui est rue du 8 mai, juste en face du Clos Bayard, et qui comporte 39 places de stationnement, dont une PMR. C'est une convention qui arrive à échéance le 31 décembre 2021, et qu'il convient donc de renouveler. Alors, juste un petit rappel, hein, en dehors des heures pour lesquelles le CDAT a besoin du parking, c'est un parking qui est mis à disposition pour les familles du centre de loisirs du Clos Bayard. La durée de cette mise à disposition va courir sur une période de 4 ans, donc à compter du 1er janvier 2022. Ce parking sera ouvert, ça c'est un petit changement, de 8 heures du matin, donc par le personnel du CDAT comme avant, mais le soir il sera fermé, ça pourra aller jusqu'à 24 heures, à nous de définir les modalités de ce fonctionnement. Et exceptionnellement, lors de manifestations, je le rappelle quand même, la commune de Saint-Prié pourra disposer de ce parking en dehors de ses jours et de ses heures. Je pense notamment au dimanche d'élection où ça nous est bien utile. L'allocation est de 1 000 euros pour les 4 années à venir. Par mois, j'ai dit quoi ? Oui, 1 000 euros par mois. Hein. Oui, d'accord. Le CDAT, oui, 1 000 euros par mois, mais c'est pour les 4 années à venir, hein, ce prix de 1 000 euros. Le CDAT s'engage à prendre en charge le nettoyage, l'entretien, la maintenance et l'éclairage du parking, c'est quand même important. Et ce sont des dépenses qui sont donc incluses directement dans le prix de la location et qui ne pourront pas faire l'objet d'une facturation supplémentaire. Donc, Monsieur le maire demande de bien vouloir approuver cette nouvelle convention et de l'autoriser à la signer.
Donc, je vous rappelle, hein, on a tergiversé un petit peu parce que depuis 2020, avec le contexte sanitaire, on avait du mal à avoir des informations sur l'optimisation de l'utilisation de ce parking. On en a discuté. Revenir en arrière pour faire une économie de gestion substantielle, puisque c'est quand même 12 000 euros par an, ça nous mettait en porte-à-faux sur la question de la promiscuité entre véhicules et enfants, surtout les mercredis pendant les vacances scolaires, où il aurait fallu qu'on gère des interdictions d'accès au Clos Bayard pendant ces périodes-là, ce qui aurait posé problème, en particulier avec certains adhérents d'associations de la MDA. On a discuté avec le directeur, M. de la Robérette. On a obtenu le fait de fermer le parking plus tard, parce que ça, c'était vraiment un gros handicap de fermer à 10h, 10h15. Un autre exemple, c'est qu'on est en train de refaire l'allée à la Albert Camus, donc à la demande des riverains. On a laissé ouvert ce parking pour qu'ils puissent y stationner leur véhicule pendant que la chaussée est refaite. Donc voilà, on s'est dit qu'après tout, ça pouvait parfois nous permettre de répondre à certaines situations. Donc, alors pourquoi pour 4 ans ? Parce que c'est une convention qu'on reportait de 6 mois en 6 mois. À un moment donné, il faut que nous, on ait de la visibilité et que le CDAT aussi. Je vous rappelle que M. de la Rue-Bérette a dit que si on mettait fin à cette convention, ben on mettrait fin à cette convention. Hein. Mais quand même, qu'au départ, dans le projet de construction, c'était la mairie qui avait fortement insisté pour qu'on crée un parking qu'on allait louer. Parce qu'il nous a dit, à la limite, moi, j'aurais fait 10 places pour le restaurant et le reste, je l'aurais loué ou vendu au Victoria. Donc, il a quand même répondu à une époque à notre demande. Et ça n'a aucun rapport avec la restauration scolaire, hein, ce parking. Donc, on l'a sollicité. On s'était posé d'ailleurs la question à l'époque si on devait louer ou acheter le terrain. On avait opté pour une location. Ça serait quand même assez indélicat de dire bah, tout qu'on fait, on revient un petit peu sur notre engagement. Donc voilà, je vous demande donc d'approuver cette convention pour 4 ans. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, elle est, je dirais, validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est là aussi la reconduction de la convention avec 30 millions d'amis. Je passe la parole à Antoine Di Paolo.
Monsieur le maire expose par délibération du 14 décembre 2020, la commune a signé une convention relative à une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune avec la fondation 30 millions d'amis et en partenariat avec l'association La Compagnie des chats. Au départ, la fondation 30 millions d'amis réglait aux vétérinaires la totalité des frais de stérilisation et d'identification des chats errants. Mais cette campagne génère un coût trop élevé pour cette dernière qui souhaite participer désormais aux frais à hauteur de 50%. La participation de la fondation 30 millions d'amis avec la commune pour les années antérieures n'a pas été utilisé en totalité. C'est-à-dire que nous avons un avoir actuellement de 1 360 €. La commune, donc, ne versera aucune participation financière pour l'année 2022. Je vous communique les tarifs des prestations des vétérinaires. Le budget global correspondant aux frais de stérilisation et des puces électroniques est établi en fonction du nombre de chats mâles ou femelles recensés dans le questionnaire et d'un montant maximum de 80 € pour une ovariectomie plus puce électronique avec marquage dans l'oreille et 80 € pour une castration plus puce électronique avec... Ah, pardon. Ah oui, 60 €. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Donc, 60 € pour une castration avec puce électronique et marquage dans l'oreille. L'intégralité des frais de stérilisation et d'identification définis par la présente convention seront directement réglés par la Fondation 30 millions d'amis aux vétérinaires librement choisis par la municipalité. Je vous demande de bien vouloir approuver cette nouvelle convention avec 30 millions d'amis et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Donc là aussi, c'est une reconduction de convention. Vous avez compris qu'on avait un avoir, puisque chaque année on payait, donc notre participation s'est stockée, ils n'ont pas intégralement consommé, donc ça va nous amener vraisemblablement à reconduire la convention, évidemment, mais ne rien avoir à payer cette année, puisqu'il y a un avoir en cours. Donc, qui est contre cette convention de partenariat? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, la convention est reconduite à l'unanimité. Et je vais à nouveau passer la parole à Antoine Di Paolo, qui va nous faire un point sur le partenariat avec l'association Le Rucher de la Bargette.
Alors, Monsieur le maire expose, l'association Le Rucher de la Bargette a pour but de promouvoir l'apiculture et la biodiversité. Cette dernière gère un rucher collectif sur le terrain communal situé à proximité des jardins familiaux, un autre rucher sur la terrasse de la mairie et encore un autre sur le terrain communal du Cré. Une convention de suivi des ruches a été établie entre la commune et l'association et votée lors des séances du conseil municipal du 2 mars 2015, du 5 février 2018 et du 2 décembre 2019. Cette convention arrive à échéance, il convient donc de la renouveler. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Je dois dire quand même que les abeilles se portent mal. Malgré des pièges anti-frelons qui sont mis sur les ruches, les frelons ont réussi à pénétrer à travers de tout petits trous et ont vraiment dévoré les abeilles. Et alors, je ne sais pas exactement comment c'est, s'il reste un peu d'abeilles dans les seins, mais bon, de toute façon, on n'aura pas de miel cette année. Et il faut dire que c'est général. Il y a des frelons de partout, c'est dans toutes les communes, c'est pas que chez nous.
Pour avoir rencontré les apiculteurs qui étaient venus sur le toit de la mairie, c'est un constat, hein, ces frelons arrivent, on les voit d'ailleurs, on les voyait quand il faisait beau. Il y avait les abeilles qui sortaient pour les combattre, et puis le soir, il y avait un tas de cadavres d'abeilles au pied de la ruche. Ils arrivent à passer donc dans ces tout petits trous. Ils réfléchissaient à installer des pièges à frelons. Alors, ce sont comme des pièges à guêpes, mais au lieu de mettre des bouteilles verticales, elles sont horizontales. Bon, après, en ce moment, c'est pas d'actualité. Mais elle pensait surtout aux ruches qui sont installées au Cré. Là, les deux qu'il y a sur le toit de la mairie, ça va être très, très difficile de les faire revivre. Après, on verra si au printemps, il y a des essaims ou des choses comme ça. Mais là, on a vraiment un gros point d'interrogation. Oui, Jacques, tu voulais dire quelque chose? Non? Non. Bien, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reconduise? Alors, c'est vrai qu'à... Jusqu'à l'ancienne mandature, c'était Roger qui supervisait tout ça, hein, directement. Même parfois, il sortait sans protection sur le toit pour aller voir ses abeilles. Bon, là, on a quand même une association qui est présente et qui s'en occupe. Donc, on a quand même cette chance de pouvoir suivre un petit peu la vie de nos abeilles. Donc, qui est contre la signature de cette convention avec le rucher de la Bargette? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on va renouveler la convention avec le rucher de la Bargette à l'unanimité. Je vous remercie. Très bien. On va évoquer maintenant donc un problème qui est beaucoup plus, je dirais, politique et qui sort un petit peu des limites de notre territoire, puisque dans le cadre des instances intercommunales, il s'agit du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2021-2026. Alors, on avait déjà voté sur ce projet au mois de septembre, j'y reviendrai après. La loi 2614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impose dans chaque département l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil prévoyant les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux où les communes où ceux-ci doivent être prévus. Elle dispose que les communes de plus de 5000 habitants, donc Saint-Priest-en-Jarret entre autres, doivent obligatoirement figurer au schéma et qu'elles sont tenues de participer à sa mise en œuvre en accueillant sur leur territoire les aires et terrains identifiés dans le schéma. Saint-Étienne Métropole est maintenant compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. Au mois d'août 2021, les services de l'État ont transmis un projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour les périodes 2021 à 2026. Ce projet de schéma comprend notamment un bilan du schéma 2013-2018, ainsi que les obligations en matière d'accueil, de grand passage et de sédentarisation. Par courrier du 30 septembre 2021, donc postérieur à notre décision de début septembre, Saint-Étienne Métropole a demandé qu'une séance de travail puisse être organisée sur ce dossier. Cette réunion s'est tenue le 18 octobre et a permis un échange entre Madame la sous-préfète de Roanne, en charge du dossier, et Monsieur le vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge du logement et de l'habitat. En vertu des conclusions de cette réunion, les obligations suivantes pourraient être intégrées au nouveau schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage avec un accord de l'État. Il est précisé que Saint-Étienne Métropole répondrait ainsi, dès l'approbation du schéma départemental, à ses obligations et pourrait utiliser la procédure administrative qui prévoit la saisine du préfet sur la base d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées avec existence d'un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Donc ça permet ensuite de réagir immédiatement s'il y a une occupation illicite d'un terrain non dédié. Et ça s'est produit encore cette année, au mois pendant l'été, en particulier à Saint-Bonnet-les-Oules, où des gens du voyage sont installés sur un terrain de sport et ils l'ont complètement, je dirais, détruit. Et le maire n'a rien pu faire puisqu'il n'avait pas l'autorité pour saisir la préfecture et les faire expulser. Les aires d'accueil du gens du voyage. Les obligations en matière d'accueil des gens du voyage pour le territoire de Saint-Étienne Métropole sont les suivantes. La Talaudière, 19 places. Roche-la-Molière, 5 places. Saint-Chamond, 6 places. Rive-de-Gier, 10 places. Firminy, 15 places. Saint-Genélaire, 15 places. Et Sorbier, 10 places. Les obligations d'accueil prévues par le précédent schéma pour les communes du Chambon-Feugerolles, la Ricamarie, Saint-Priest-en-Jarret, Unieux et Villars, transformées en une contribution à la réalisation de projets de sédentarisation sur la métropole, sont maintenues. C'est-à-dire que dans la mesure où on ne pouvait pas physiquement créer des aires, on devait participer financièrement à leur création et à leur entretien. S'y ajoutent les communes de Saint-Galmier et la Grand-Croix. Lors de la commission Habitat de Saint-Étienne Métropole du 10 novembre 2021, le représentant de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds s'est exprimé pour que la commune soit également ajoutée au titre des obligations transformées en une contribution à la réalisation des projets de sédentarisation. Il est donc proposé que cet élément soit pris en compte. Alors pourquoi Saint-Jean-Bonnefonds ? Parce qu'ils avaient une aire importante qui a été fortement dégradée et qui, depuis plusieurs années, ne servait plus. Donc plutôt que de réhabiliter cette aire qui est inutile en définitive, ils ont souhaité rejoindre les communes concernées. La contribution financière correspondante est à la charge de la métropole qui a la compétence aire d'accueil. C'est très important parce que le débat, et justement Bernard Charrière qui est parmi nous, l'avait suivi au cours du dernier mandat, lors de réunions particulièrement houleuses avec la sous-préfecture, où on arrivait à des niveaux de participation totalement aberrants en termes de finances publiques. Donc là, comme c'est Métropole qui a repris la compétence, c'est Métropole qui payera. Ce qui avait amené à l'époque, au mois de septembre, le fait qu'on avait voté pour ce schéma. Il convient de préciser sur ce point que les projets de sédentarisation peuvent être réalisés sous la forme d'habitat adapté, agrément du type logement social. Il est à noter que les bilans de gestion des aires d'accueil montrent que l'offre d'accueil permet de répondre aux besoins sur les différents bassins d'habitat de la métropole. Sur la période 2013-2018, le taux moyen d'occupation des places disponibles était de l'ordre de 60%, avec une moyenne de plus d'une trentaine de places disponibles sur la période. Sur l'année 2019, le taux d'occupation était de 55%. La métropole et la ville de Saint-Étienne n'ont pas observé de report d'occupation, malgré la fermeture de l'aire d'accueil de Saint-Étienne-Saint-Jean-Bonnefonds, comme je viens de vous l'indiquer. Sur la dernière année d'occupation complète, avant sa fermeture, le taux d'occupation de l'aire Saint-Étienne-Saint-Jean-Bonnefonds était de 17%. Par ailleurs, une clause de revoyure dans les 2 ans sera intégrée au schéma pour faire le point sur l'évolution des taux d'occupation et pour vérifier si l'offre d'accueil actuelle est adaptée aux besoins. Le nombre de places d'accueil sur l'aire de la Talaudière pourrait être diminué en fonction des besoins du projet de sédentarisation qui sera élaboré, donc au point 3 de ce présent document, et des taux d'occupation observés sur la période à l'échelle de la métropole. Cela dans la limite des 19 places actuelles comprenant le projet de sédentarisation et l'offre d'accueil. L'aire de grand passage. Les obligations du projet de schéma en matière d'aire de grand passage pour le territoire de Saint-Étienne-Métropole sont les suivantes. Une aire de grand passage qui est localisée à Andrézieux-Boutéon, commune à Saint-Étienne-Métropole, Forêt-Est et Loire-Forêt-Agglomération, de 120 places. Donc là, c'est une aire commune à 3 métropoles. Il est convenu que le schéma prenne en compte le projet d'aménagement et de mise aux normes envisagé sur cette aire, en accord avec Loire-Forêt-Agglomération et Forêt-Est, visant à scinder l'aire en 2 parties, une première partie de 40 places et une seconde de 80 places, ce qui permettra de proposer une offre de passage pour les grands et les petits groupes, ne pouvant être accueillir sur les aires d'accueil, tout en maintenant une capacité globale de 120 places pour les grands passages. Donc, autre point important du schéma, c'est la sédentarisation des gens du voyage. Les obligations du projet de schéma en matière de sédentarisation pour le territoire de Saint-Étienne Métropole sont les suivantes. Un projet d'habitat adapté réalisé à Saint-Étienne, à la Chaumassière, 31 logements. Un projet d'habitat adapté réalisé à Andrézieux pour 11 logements. Un projet de 3 nouveaux logements adaptés à réaliser à Saint-Étienne, à la Chaumassière, un projet de 6 terrains familiaux locatifs à Roche-la-Molière. Un projet de 12 terrains familiaux locatifs à Saint-Chamond. Un projet de 15 terrains familiaux locatifs au Chambon-Feugerolles. Le programme précis reste à définir, avec une échéance de mise en service avant la fin du schéma. Un projet de 20 terrains familiaux locatifs à Saint-Étienne en direction des ménages présents rue Xavier Privat sur le site dit Michon, programme précis à définir avec une échéance de mise en service avant la fin du schéma. Et enfin, un projet de terrain familial ou d'habitat adapté en direction des ménages présents sur l'aire d'accueil de la Talaudière, là aussi, programme précis à définir dans la limite des 19 places actuelles comprenant le projet de sédentarisation et l'offre d'accueil. Il est précisé que les terrains familiaux seront réalisés dans le respect des normes du décret 2019-1478 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage. Donc vous voyez qu'il y a quand même un effort très important qui est mis sur des propositions de sédentarisation, soit des terrains où les gens du voyage peuvent s'installer, soit carrément dans de l'habitat traditionnel construit. Le point 4, donc, les obligations en matière de grand passage, il conviendrait de préciser les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. Ces éléments ont été présentés dans les mêmes termes lors du Conseil métropolitain du 2 décembre 2021. Je vous demande donc de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de l'avis favorable émis par le Conseil métropolitain, émettre un avis sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Loire 2021-2026 sous réserve de la prise en compte du contenu de la présente délibération. Cette délibération annule et remplace la délibération 210908 en date du 6 septembre 2021 que nous avions signée le 7 septembre 2021 et été transmise à la préfecture le 9 septembre. Donc vous avez compris qu'en définitive, il n'est pas possible de modifier le schéma puisqu'il est départemental. Métropole a négocié des conditions complémentaires qui ont été acceptées par la préfecture. Donc maintenant, on revient vers vous pour vous demander de valider ce projet de schéma. Avez-vous des questions? Sachant que le schéma est départemental, hein, il n'est pas simplement Loire-Sud, Saint-Étienne Métropole. Donc pour nous, ça ne change rien à la première délibération qu'on avait prise en septembre, si ce n'est qu'on intègre les conditions formulées par Métropole. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, nous validons ce schéma départemental. Le point suivant, c'est le balisage de trois passages piétons route de l'Étra. Il y a lieu d'envisager des travaux de balisage de trois passages piétons route de l'Étra. Vous savez que la route de l'Étra, elle a été récemment refaite, de la terrasse jusqu'à l'Étra. Conformément à ses statuts, article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le Ciel Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc nous souhaitons que soit installé un balisage sur trois passages piétons. En fait, en partant de la place de la terrasse, il y en aurait un premier à la sortie de la première... du premier tracé, avant d'arriver à la hauteur des concessionnaires automobiles. Il y en aurait un second un peu plus loin, devant Iris Jardin, là où il y a eu un accident très grave il y a 18 mois. C'est un passage piéton qui est dans un virage. Et le troisième qui serait balisé, c'est en bas de la rue des Carrières, en face le magasin, en face la salle de la Bargette. Alors on ne peut pas non plus baliser tous les passages piétons, je crois qu'il y en a 12 en tout. Donc là, le service technique, on choisit trois passages piétons plutôt exposés. Donc le balisage est de 6 928 euros hors taxe. Donc vous savez qu'avec le Ciel, on a une remise puisqu'on adhère au Ciel. Donc ça représentera 6 373,76 euros hors taxe. Ces contributions sont indexées sur l'indice TP12. Je vous demande donc de bien vouloir demander au Ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage et travaux de balisage trois passages piétons aux routes de l'Étra, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Alors il y a un autre argument au choix de ces trois lieux, c'est qu'on peut tout à fait installer les balisages sur des mâts d'éclairage existants. On n'a pas besoin de faire une installation spécifique. C'est un éclairage dédié aux passages piétons. Alors, bon, y a des communes qui peuvent investir, donc par exemple à l'Étra, au Carrefour, c'est avec des petites colonnes bleues qui changent de couleur, etc. On en a aussi, nous, à l'entrée du Clos Bayard. Hein, donc c'est pour pouvoir bien éclairer, baliser donc les passages piétons. Et donc là, on va s'adosser en termes d'arrivée électrique sur des mâts existants. Bon, ça sera un ou deux projecteurs par passage piéton. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au Ciel est effectué en une seule fois. décidé d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années et m'autorisé à signer toutes les pièces à intervenir. Avez-vous des questions ? Alors c'est vrai que l'idéal, c'est que dans la durée, on puisse généraliser cette signalétique, peu importe la forme, qu'elle soit très, très design ou simplement pratique. Après, bien sûr, c'est un budget. Vas-y, Pierre. Tu prends le micro ? Lise, tu peux passer le micro, Pierre ?
Excusez-moi, j'ai vu dans certaines communes, au lieu d'avoir un éclairage sur le passage piéton, incrusté dans le sol, on pouvait avoir des petites LED. D'ailleurs, qui n'étaient peut-être même pas alimentées, qui étaient peut-être juste réfléchissantes avec les. Et ça, je trouve que c'est assez efficace. Ça coûte certainement pas cher. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que c'est des balisages qui peuvent avoir un intérêt ? Je
sais pas. Alors, route de l'Étra, il y en a déjà. Hein. Les services techniques en ont mis, des petits, comme des petits catadiopes, hein, des petits trucs qui clignotent le soir. Mais c'est quand on est dessus tout de suite. Donc, on les voit quand on est arrivé. Et l'accident qu'il y avait eu, c'est une voiture qui arrivait relativement vite. Et dans la courbe, elle a renversé une personne. Donc là, au moins, il y aura... Bon, alors c'est pareil, on peut mettre des panneaux clignotants un peu partout, mais là, il nous en faudrait déjà 24 routes de l'Étra. À 6 000 euros le panneau, ça ferait quand même un budget. Je finis sur cette histoire de budget. La route de l'Étra a été refaite sur une décision métropolitaine, et on l'a découvert quand ils ont dit qu'ils refaisaient la route entre l'Étra et la terrasse. Je me suis dit, quelque part, au milieu, il doit bien y avoir Saint-Prier, il me semble. Évidemment, ils l'ont refait. On a eu des frais supplémentaires parce que tout ce qui est traçage et marquage, c'est pour nous. Et puis, s'est posé le problème des grilles. Parce que ce n'était pas de la compétence métropolitaine. Donc, on en avait pour un peu moins de 20 000 euros. Donc, on n'avait pas du tout budgété. Donc, quand on a rencontré les services Voirie Métropole, j'ai fait un petit peu mon mauvais canard en disant c'est inadmissible, on ne nous prévient pas, etc. Il y avait d'autres surcoûts également sur... Le mur de la rue Bizet, ouvrage d'art, normalement, théoriquement, intégralement pris en charge par la métropole dans le cadre du plan de relance ouvrage d'art. Et en fait, on a eu 17 000 euros à payer. Et puis le surcoût également, rue Albert Camus, parce qu'on a changé de prestataire. Celui qui avait obtenu le marché n'était pas du tout compétent. Donc c'est FH qui a repris le chantier avec un surcoût de presque 50%. Donc on a, j'ai dit à Métropole, ce n'est pas des façons de faire entre ce que dit le politique et ce que décident les services. À un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence. Ou alors, moi je vais dire partout que c'est les services qui décident et pas les politiques. Donc ils sont revenus vers nous en disant, bon, on a bien compris, vous avez été surpris. Ils prennent en charge les grilles, route de l'Étra. Bon voilà, si on n'avait rien dit, on les aurait payés. Là, ils ont dit, ok, on va faire un geste, on a bien compris qu'il y avait eu un manque d'informations. Donc les 20 000 euros, on les prendra en charge. Voilà. Bon, ça ne sera peut-être pas mis au... procès verbal.
Dernier petit point, ce passage piéton qui est dans le virage, est-ce qu'on ne peut pas le décaler ? Parce que dans le virage, même signalé, ça sera toujours dangereux.
Après, il est placé avant et après d'autres intersections, donc ça posera des problèmes. Aujourd'hui, Métropole dit que quand on fait un passage piéton, il faut pouvoir faire un îlot central. Donc il faut une largeur de chaussée beaucoup plus importante que ce qu'on connaît. Bon, je pense quand même que là, avec une signalétique plus adaptée, bon, après on est sollicité toutes les semaines. Je pense qu'Antoine, Claude, Jacques le savent très bien, pour mettre des ralentisseurs un peu partout, ou au contraire pour en retirer parce que ça casse les mécaniques. Alors il y en a qui sont justifiés dans les démarches, dans les réflexions, puis d'autres on se dit c'est pas possible, quoi. Mais de toute façon, on fera en début d'année une réunion de la commission circulation. Il y a beaucoup de points sur la commune, indépendamment des projets ponctuels, qu'il faut revoir en termes de circulation pour qu'on retrouve une cohérence globale. Donc pour cette décision donc de balisage de trois passages piétons, qui est contre, qui s'abstient, qui valide la décision, donc à l'unanimité, et je vous remercie, c'est validé.
Que je change de classeur, voilà.
Non, pas du tout. Eh ben non, tu vois. Voilà. Oui, c'est le ciel, c'est le 8. Je cherche la peine. Donc, c'est la convention cadre d'adhésion au système d'assistance de télégestion. Et je vais passer la parole à Jacques qui va nous le présenter.
Bonsoir. Ça ira mieux avec des lunettes. Donc, cette convention cadre concerne l'adhésion au SAGE, c'est le service d'assistance à la gestion énergétique du ciel et maintenance de la télégestion. Donc, Monsieur le maire expose, considérant qu'il y a lieu de délibérer pour demander au ciel TE d'assister la collectivité dans la gestion énergétique de son patrimoine, et c'est d'actualité, considérant qu'à cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du ciel TE qui se compose de deux parties, une aide à la gestion des consommations des bâtiments publics, une aide à la mise en œuvre des solutions techniques, considérant que l'adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction, considérant que le montant de la contribution que l'activité s'engage à verser annuellement au ciel TE est conforme au tableau des contributions du ciel TE pour l'année 2021 s'élève à 7 980 euros. C'est une somme, on en reparlera. Considérons que cette contribution est révisable chaque année selon le tableau annuel des contributions du ciel TE. Considérant qu'il y a lieu de reconduire la maintenance du système de télégestion des bâtiments mairie, Clos Bayard, NEC, Villa Saint-Michel, École Jean Massé, groupe scolaire Georges Sand, maternelle Jules Ferry, primaire Jules Ferry, La Bargette et salle omnisport Saint-Priest Loisirs dans le cadre de la compétence optionnelle SAGE du ciel TE. Cette souscription entraîne le versement d'une contribution annuelle de 2300 euros, 200 euros de base par site et 1 euro par point de pilotage jusqu'à la fin de l'adhésion à la compétence optionnelle SAGE. Cette contribution sera inscrite au compte 65-54. Cette contribution est revalorisable selon le tableau annuel des contributions ciel TE. Considérant que ces montants sont versés au ciel TE au cours du premier semestre de l'année considérée, à défaut de paiement dans le délai de 30 jours à réception du titre de recette, il sera appliqué les intérêts moratoires au taux légal en vigueur. Considérant que la collectivité devra libérer pour chaque nouveau projet de ce système de gestion, considérant que dans le cadre de la compétence optionnelle SAGE, le ciel TE propose un module projet énergie renouvelable et réseau de chaleur qui permet à la collectivité de demander au ciel de réaliser la maîtrise d'œuvre du projet de construction de la chaufferie bois. Celle-ci ne sera facturée à la collectivité qu'après délibération de la collectivité pour chaque nouveau projet. Considérant que dans le cadre de la compétence optionnelle SAGE, le ciel TE propose un module bâtiment neuf et réhabilitation pour accompagner la collectivité pendant la réalisation de projets de réhabilitation. Cet accompagnement ne concerne que la partie énergie de l'opération, enveloppe et système. Celui-ci ne sera facturé qu'après délibération de la collectivité de chaque nouvelle souscription au forfait 4, 7 ou 10 jours. Considérant que le détail des prestations, les conditions d'intervention du ciel TE et la répartition des rôles entre le ciel TE et la collectivité sont explicités dans le document annexé à la présente délibération, je vous demande de bien vouloir décider que la collectivité adhère au service d'assistance à la gestion énergétique, à son module télégestion mis en place par le ciel TE, décrit ci-dessous, et s'engage à verser les contributions annuelles correspondantes, motorisées, assignées, toutes pièces à intervenir. Alors, un tout petit commentaire sur ce long laïus. 7 980 euros, c'est de l'argent. Ça représente sur une mandature 6 x 8, 48 000 euros. Sur la seule année 2020, la télégestion, on l'a évoqué samedi, nous a permis d'économiser sur nos bâtiments 36 000 euros, puisque pendant la période Covid, les services techniques ont abaissé les températures dans des bâtiments communaux non utilisés, et même sur les écoles en période de non-utilisation. Donc 36 000 euros d'eau, c'est presque la somme engagée, et la baisse qu'on aura sur 2021 confirmera cette nécessité. La deuxième chose, c'est que les rapports du SAGE, vous avez pu le voir samedi matin, nous donnent une ligne de conduite, c'est notre sextant, c'est notre boussole, et nous donnent des points de priorité et des points de passage obligés sur tous les bâtiments communaux. Bon, on est en train d'y travailler dessus en ce moment et c'est très précieux. Les informations du SAGE sont très précieuses en termes de déperdition et d'économie d'énergie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Corinne.
J'ai une question par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Jacques. Est-ce que, au bout d'un certain temps, on acquiert de l'indépendance par rapport à ces outils de télégestion ? De ce que je comprends, c'est que globalement, on a payé une certaine somme pour économiser une certaine somme. Et du coup, est-ce que ça nous apprend des choses sur une meilleure gestion de nos bâtiments ? Ce qui veut dire qu'un jour, on peut se détacher d'une télégestion ou pas ?
Oui, alors, disons qu'annuellement, on a l'information sur les consommations des bâtiments en kilowattheure et en euros, parce qu'on peut, avec les mêmes kilowattheures et les hausses de coûts d'énergie, avoir des consommations plus importantes en euros. On l'a bâtiment par bâtiment, et on a aussi toutes sortes de ratios, c'est-à-dire c'est le nombre de kilowattheures par an et par mètre carré. Et tous ces ratios nous permettent d'analyser finement les bâtiments qui sont énergivores, et on les a classés. Ensuite, on peut avoir un service complémentaire pour des priorités d'investissement. Si on prend par exemple sur Jules Ferry, on l'a présenté samedi aux élus, le ciel et le sage nous recommandent en priorité l'isolation des combles, qui n'est pas performante, l'isolation des murs intérieurs ou extérieurs, à voir suivant les coûts. Par l'extérieur, c'est un tout petit peu plus performant parce qu'on coupe les ponts thermiques au droit des planchers. Et le remplacement de certaines menuiseries, mais pas toutes, parce que nos menuiseries sont en PVC double vitrage et sont plutôt performantes. Voilà les gros axes de travail. Et on a la question des chaudières, puisque sur nos écoles, on avait deux chaudières par école, une au cas où et une qui fonctionne. Et tout ça coûte des contrats d'entretien et tout, et on va remédier à tout ça. Donc, pour nous, c'est vraiment, qui travaillons sur ces dossiers, on en a énormément besoin. À l'avenir, il y aura au moins la maintenance de ces systèmes de télégestion, parce qu'il faudra que nos successeurs gardent une lecture des coûts énergétiques des bâtiments, me semble-t-il. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Pour compléter, Corinne, ce que vient de dire Jacques, le système de télégestion, c'est le pilotage à distance, et puis surtout les retours en termes de consommation. Dans le document qui est joint, et Jacques nous en a parlé samedi, il y a un élément important, à première page, dans le préambule, la loi de transition énergétique de la croissance verte, TECV, publiée en août 2015, confirme des objectifs ambitieux en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. C'est ce que Jacques avait présenté. À l'horizon 2030, réduction de la consommation d'énergie fossile de 30% par rapport à 2012. À l'horizon 2030, réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 90. Et à l'horizon 2050, réduction de la consommation énergétique finale de 50% par rapport à 2012. Donc, pour s'engager dans ces objectifs, alors après on verra, y compris stratégiquement et politiquement, ce qui se passera à l'approche de ces échéances, il nous faut des outils. Et justement, le système SAGE nous fournit les moyens de suivre et de réguler. Alors après, plus on fera du neuf, plus on fera de la rénovation, plus on sera dans des économies substantielles.
Par contre, pour l'année prochaine, avec les hausses des coûts de l'énergie actuelle, je ne sais pas si on sera bien équilibré.
C'est pour ça que si tu reprends les documents qui avaient été envoyés, en particulier sur Jules Ferry, où on avait une étude de tous nos bâtiments, on l'avait en euros et en consommation. Et c'est ce qu'on s'est dit, en euros, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Par contre, donc, ce qu'il faut suivre, c'est la volumétrie des consommations. Parce qu'on peut avoir des réductions de consommation et des augmentations de la facture. Mais voilà, bon. Donc le document, je t'invite à le regarder à nouveau. Il est intéressant, y compris quand on voit un petit peu la répartition des consommations dans l'ensemble de nos bâtiments. On a combien en tout, quoi ? Je crois une quinzaine à peu près, hein, de bâtiments municipaux. Ça paraît pas, mais avec des résultats qui sont très, très différents d'un bâtiment à l'autre. Deuxième chose, avant qu'on se prononce sur ce document, vous l'avez au point 4, interlocuteur du ciel du territoire d'énergie Loire. Donc, on avait désigné comme représentant élu Michel Cosset et comme cadre technique Jean-Pierre Roll. Avez-vous d'autres remarques à faire sur ce système de télégestion donc, qui porte bien son nom, c'est adhésion au service assistance à la gestion énergétique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on valide l'adhésion au sage du ciel. Donc le 9 cette fois-ci. C'est le point relatif au repos dominical pour les commerces de détail. La loi 2015-990 du 6 août 2015 a fixé le nouveau cadre législatif pour l'ouverture des commerces le dimanche. Auparavant, la législation permettait aux maires d'autoriser des dérogations jusqu'à 5 dimanches par an. Désormais, conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du Code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Par ailleurs, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, donc Saint-Étienne Métropole. Le conseil municipal est de même consulté pour avis. La législation maintient la consultation des organisations patronales et syndicales en application de l'article R3132-21 du Code du travail. Il est rappelé que la dérogation a un caractère collectif et doit ainsi bénéficier à l'ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune. Il est donc possible de prendre des arrêtés différents selon les catégories d'établissements. Je précise que tous les commerces concernés ont été consultés, ainsi que les organisations syndicales et professionnelles et Saint-Étienne Métropole. En conséquence, compte tenu des demandes exprimées, il est proposé au conseil municipal de donner son avis sur la programmation 2022 suivante. Pour le mois de janvier, les 2, 16 et 23 janvier, pour le mois d'avril, le 17 avril, pour le mois de juin, le 26 juin, pour le mois de juillet, le 3 juillet, le 28 août, le 4 septembre, le 27 novembre et 4, 11 et 18 décembre 2022. Donc je vous demande de bien formuler un avis positif sur ces demandes formulées donc auprès de Saint-Étienne Métropole par les commerces concernés. Avez-vous des questions ?
Bonsoir. Les dates qui sont inscrites, ça correspond à des fêtes, à des événements, je sais pas ce que, ou de, la Toussaint ou des choses comme ça.
Alors en janvier, bah, c'est les contreparties un petit peu des soldes. Après, bon, il y a Pâques. On voit bien, bon, le 4 septembre, c'est la rentrée. Les 4, 11 et 18 décembre, c'est les fêtes de Noël. Enfin voilà, c'est bon. Ça correspond alors. Par rapport à une activité commerciale de détail, à des périodes, en particulier si on prend par exemple les opérateurs automobiles, les week-ends portes ouvertes ou des choses comme ça.
Okay. C'est que, bon, je pensais bien que ces dates n'étaient pas prises au hasard.
Non, non.
Bon. Okay, merci.
En fait, ce n'est pas nous qui les déterminons, on les valide, mais ce n'est pas nous qui avons proposé ces dates-là. Des questions? On peut passer au vote, donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide les dates proposées. Merci. Oui. Alors soit ils ont des dérogations nationales, je l'ignore, soit ils s'exposent à des sanctions financières. Cela dit, ils savent très bien que le chiffre d'affaires que ça leur apporte est nettement supérieur à l'amende qu'ils vont devoir payer, surtout. Et encore faut-il que soit verbalisé. Je ne suis pas certain que la police nationale ou la gendarmerie en zone rurale s'amuse à aller dans ces magasins pour constater qu'ils sont ouverts. Oui, après, il y a des thématiques en fonction des magasins ou des groupes qui obtiennent des dérogations au niveau national. Le point suivant est un point assez technique, bon, mais il faut quand même le valider. Il concerne la révision libre des attributions de compensation communale en fonction et en investissement. En fonctionnement et en investissement, pardon. Au terme des dispositions du 5 de l'article 1609 nonis C du Code général des impôts, le montant de l'attribution de compensation communale et des conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibération concordante du Conseil métropolitain et du Conseil municipal de la commune de Saint-Priest-en-Jarez lorsque celle-ci est concernée par cette procédure. Il est proposé d'utiliser la procédure de révision libre des attributions de compensation communale dans le cadre de la mise en œuvre du pacte financier et fiscal 2021-26 de Saint-Étienne Métropole. On avait déjà parlé, hein, et vous aviez été destinataire d'un document sur cette thématique, mais qui était beaucoup plus général sur les recettes pour financer le pacte de relance. Donc Saint-Étienne Métropole s'est doté de son pacte financier fiscal 2021-2026 adopté par une délibération du Conseil métropolitain du 30 septembre 2021. Dans ses objectifs, ce pacte s'attache à maintenir le niveau de solidarité financière de la métropole envers ses communes dans le respect des nouvelles règles nationales de redistribution. Il définit ainsi les modalités financières à mettre en œuvre au titre, d'une part, de la dotation de solidarité communautaire, appelée DSC, afin de se conformer aux dispositions de la loi de finances pour 2020, réformant cette dotation, et des attributions de compensation AC, de fonctionnement communal, afin de garantir les montants historiques de la DSC pour chaque commune. Avec la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, le montant de la DSC de la commune de Saint-Priest-en-Jarez sera de 199 052 euros en 2021 pour un montant initial de DSC de 473 286,56 euros, soit une diminution de 274 234,56 euros. On ne va pas s'arrêter là. Conformément aux dispositions du pacte financier fiscal 2021-2026, le montant de la nouvelle DSC, donc 199 052 euros, sera complété par un montant d'attribution de compensation de fonctionnement pour garantir à la commune un montant au moins équivalent à son montant historique. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le mode de calcul de cette DSC visait à faire une clé de répartition entre les communes et donner à chaque commune 100% de sa quote-part. C'est désormais interdit. Donc, Métropole a revu sa copie, redistribue en fonction des nouvelles règles, donc la dotation de solidarité communautaire, et pour que les communes ne soient pas lésées, leur accorde une seconde aide, qu'on appelle donc l'attribution de compensation, pour porter le montant global à ce qu'on percevait auparavant. En conséquence, il est proposé de majorer l'attribution de compensation de fonctionnement de la commune de Saint-Priest-en-Jarez d'un montant de 274 234 euros à compter de 2021. On a quand même perdu 56 centimes, vous avez remarqué. Hein, allez. Cette proposition a recueilli un avis favorable à l'unanimité de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, réunie le 28 octobre 2021. La commune doit elle-même adopter ce principe par une délibération concordante avec Saint-Étienne Métropole. Je vous demande donc de bien vouloir approuver la majoration de l'attribution de compensation de fonctionnement communal à compter de 2021 au titre du pacte financier et fiscal 2021-2026 de Saint-Étienne Métropole. Donc vous avez compris que pour nous ça ne change rien, sauf qu'au lieu d'avoir un financement identifié DSC, on a une partie DSC et une partie AC. Voilà. Alors vous avez des documents qui sont intéressants, voir comment ça se répartit. Et puis, vous avez ensuite la délibération de la CLET, où là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se répartit au niveau de l'ensemble des communes de la métropole.
On a une trajectoire, Christian, sur, jusqu'à 2026 ou pas ?
Comment ?
Est-ce qu'il y a une trajectoire non, de non, cette AC ?
Parce qu'en fait, cette DSC, c'est du financement d'État. C'est une enveloppe que l'État donne à la métropole. Bon, les clés de répartition, pour l'instant, ne sont pas changées. C'est-à-dire que la métropole reverse pour l'essentiel aux communes. Après, en fonction de l'évolution... Oui, des ressources propres de la métropole. Voilà. Mais il n'y a pas de fléchage. L'engagement de la métropole, c'est quand même que les communes ne soient pas pénalisées. On est 53 communes, donc s'il y avait une règle en défaveur de certaines communes, ça poserait sans doute des problèmes.
Oui. Est-ce que tu sais s'il y a une actualisation du fait de l'inflation qui va un peu galopante? Ça va être de 2,4%, quelque chose comme ça, ou un peu plus? Non.
Dans ce genre de situation, il n'y a pas d'actualisation prévue. Après, on constate d'une année sur l'autre les enveloppes et comment on les répartit. Alors, ce qu'on a vu sur l'ensemble des DGF, des dotations d'État, sur plusieurs années, qu'elles n'ont pas baissé en valeur, mais n'ont jamais été actualisées.
Oui, Michel Misassia. En fait, la DSC et la attribution de compensation, c'était surtout en fait quand on est passé en communauté de communes, on a transféré la taxe professionnelle à la communauté d'agglo. Et la taxe professionnelle est quand même était une de nos principales ressources, bien entendu. Donc, pour inciter les communes à venir dans les communautés de communes, particulièrement Saint-Étienne Métropole s'est engagé à reverser pratiquement l'intégralité de ce qu'on aurait touché en taxes professionnelles en compensation. Mais c'est ce que je vous expliquais. Le problème de ces compensations, c'est que c'est un instant T, c'est-à-dire quand la communauté de communes a été créée. Mais effectivement, il n'y a pas d'évolution en fonction des nouvelles communes. En fait, la communauté de communes a fait ça pour avoir une assise, si vous voulez, mais après, toutes les nouvelles entreprises qui se sont créées sur les communes, là, ça tombait effectivement directement dans le giron de Saint-Étienne Métropole. Et surtout, il n'y a pas d'actualisation en fonction de l'inflation et tout. C'est pour ça que quand on nous parle de la compensation au centime près de la taxe d'habitation, on va se retrouver, je pense, dans quelques années, avec le même problème. C'est-à-dire que la taxe d'habitation, elle sera figée à l'instant T, mais elle ne sera certainement pas revalorisée. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, après, ça fait vivre Saint-Étienne Métropole. Hein. Ça nous revient indirectement, puisqu'après, ils financent quand même des projets sur Saint-Priest-en-Jarret. On a une enveloppe voirie, on a voilà. Mais on n'est plus incité à être un territoire attractif pour les communes, puisque de toute façon, avant, c'était le but, hein, c'était de faire venir sa commune chez l'entreprise sur son territoire pour pouvoir toucher la taxe professionnelle. Là, maintenant, on n'a pas forcément intérêt à être forcément attractif, puisque ça va tomber dans le giron de Métropole.
Par rapport à ça, en fait, bon, la compensation de la taxe d'habitation, c'est sûr que c'est tout un ensemble d'interrogations. Il faut aussi se projeter dans le temps, parce que toutes ces enveloppes qui se superposent en compensation d'État, ou je ne sais pas si vous avez remarqué sur votre taxe foncière, on est à 37% de taxe foncière, je vous rassure. Hein. On n'a pas augmenté de 15,5% la taxe foncière. Ils ont fusionné la taxe départementale avec la taxe communale. Il manque une colonne. Il y a une colonne de moins sur votre avis de taxe foncière. Donc, il y a des gens qui sont venus voir. Ils disent, vous nous volez. Vous êtes passé de 20 à 35%. Ça ne va pas. Oui, mais il n'y a plus la part départementale. Donc, voilà. Tout ça, c'est remis en cause. On sait qu'il y a des grosses réflexions sur l'ensemble des financements des collectivités territoriales. Il y a des expérimentations qui ont été menées, justement, sur la révision des bases, en particulier dans le domaine foncier. Et au bout d'un an, dans les trois départements concernés, ils ont dit « on arrête tout ». Parce que si on travaillait sur des vraies bases actualisées, ça serait une augmentation de l'ordre de 30% pour les contribuables. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont faites. Les financements qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier les compensations, plus de taxes d'habitation, vous êtes compensés, etc. Je pense que d'ici 4 ou 5 ans, on va voir ce que... Après la prochaine échéance électorale, on va voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va être mis à plat dans l'ensemble de ces dispositifs. Donc, on va voter ce dispositif. En fait, on dissocie notre financement en deux enveloppes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui valide la décision? À l'unanimité, je vous remercie. Et je passe maintenant la parole à Michel pour les questions de finances.
Oui, alors, pardon, excusez-moi. Comme toutes les années, on retrouve l'autorisation d'engager les dépenses d'investissement de la commune avant le vote du budget primitif. Donc, je vous rappelle bien sûr que le vote du budget primitif aura lieu fin mars, hein, comme toutes les années. Et pour que la commune puisse continuer à fonctionner en investissement, continue à acheter les choses dont elle a besoin, à faire les réparations ou les nouveaux aménagements, on a besoin d'un budget, bien entendu, jusqu'au mois de mars, puisque vous savez que tant qu'on n'a pas de budget, on ne peut pas engager les dépenses. Donc, on a, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, qui dit que jusqu'à adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, hein, qui est la date limite, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du Conseil, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Ce qui est logique puisque ça représente un trimestre, donc ça représente un quart des dépenses. Non compris, bien entendu, les crédits afférents au remboursement de la dette. Ça, on est autorisé à rembourser la dette au fil des échéanciers et on a effectivement des échéances qui tombent janvier, février et mars, bien entendu. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption et l'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Donc l'année dernière, on a investi pour 1 071 540,26 €. Donc si on calcule 25% de cette somme, on était autorisé à engager jusqu'au 31 mars la somme de 267 885,06 €. Ça, c'est une somme, bien entendu, maximum. Vous verrez, enfin, que, je ne sais pas si vous avez fait l'attention, mais on n'est pas allé jusque-là. Donc, on a engagé certaines, on a vu bien entendu avec les services, hein, et on a engagé les dépenses d'équipement prioritaires ou urgentes pour début 2022. Donc, je ne vais pas vous en faire toute la liste, hein, mais vous avez vu que ça concerne aussi bien de l'éclairage, les logiciels, du mobilier, du matériel, un véhicule pour les services techniques, du matériel informatique et de centre de supervision vidéoprotection, ça c'est pour aménager les caméras, du mobilier pour différents endroits, une auto-laveuse, des photocopieurs pour les écoles parce qu'elles arrivent un petit peu à bout de souffle, une chaufferie, de l'électroménager, alors ça c'est plus effectivement un petit matelas de sécurité si jamais on a un appareil qui casse avant le 31 mars, et la climatisation de la salle de danse de l'EMA. Donc, tout ça est réparti, bien entendu, en fonction des articles de notre budget. Je vous fais grâce des intitulés et des répartitions. Mais vous voyez qu'on arrive à la somme de 172 479,40 €. Donc, on est loin des 267 000 qui étaient, bien entendu, autorisés. Voilà. Donc, on vous demande, eh bien, effectivement, d'autoriser Monsieur le maire à engager ses crédits et à envoyer la délibération qui nous permettra de commencer à travailler sur l'investissement dès le 1er janvier 2022.
Donc, des petites précisions, hein, par rapport aux dépenses. Bon, Michel a donné l'essentiel. Il y a également, bon, par exemple, les 23 407, c'est de l'éclairage public. On a prévu donc des derniers agencements sur l'EMA. On a un kit anti-voiture bélier de 7 730 € pour la police, conjointement partagé avec Villard, c'est-à-dire que nous, on achète deux barrières, c'est ça, Antoine ? Et Villard achète deux barrières et on se les prêtera mutuellement en cas de besoin. On a également donc le centre de supervision urbain vidéo, 52 000 €. Alors, on met les montants qu'on va payer. Là-dessus, on va avoir des subventions. Mais on est bien obligé d'inscrire la dépense telle qu'on va la payer. On a un petit peu de un peu moins de 1 000 € pour la petite enfance. Et puis, le dernier point, 11 000 €, c'est la climatisation de la salle du gymnase. Voilà, c'est la climatisation, hein, puisque ça posait un problème. Donc, on a prévu 11 000 €. Donc, voilà. Ce sont donc des dépenses qu'on va pouvoir engager dès le mois de janvier, sans attendre le budget définitif. Il devrait vous être présenté au mois de mars. Des questions par rapport à ça ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide ces dépenses, je dirais, prioritaires à l'unanimité. Point suivant, donc. Alors, c'est l'inscription de biens meubles en section d'investissement.
Alors effectivement, donc vous savez bon que normalement pour que des dépenses soient inscrites au budget d'investissement, il faut qu'elles aient un certain montant. Bon, au départ, dès 83, ça avait été fixé à 1500 francs. Après, ça avait été porté à 4000 francs. Et puis, bien entendu, quand on est passé en euros, ça avait d'abord été fixé à 400 euros et à partir du 1er janvier 2002, à 500 euros. Voilà. Donc, effectivement, on a la possibilité quand même de passer les biens qui sont de valeur inférieure à 400 euros en section d'investissement parce que effectivement leur usage est de l'investissement et puis ça, enfin, c'est une acquisition de parts d'investissement. Et puis surtout, ça nous permet, nous, en les inscrivant en investissement, de récupérer la TVA, ce qu'on ne peut pas faire si on ne les inscrit pas en investissement parce qu'en fonctionnement, on ne récupère pas la TVA de ce qu'on achète. Donc, les biens meubles qui ne sont pas considérés comme des valeurs immobilières par nature d'un montant inférieur à 500 euros peuvent donc quand même être inscrits en section d'investissement, mais bien entendu sur délibération expresse du conseil municipal et sous réserve qu'ils revêtent un caractère de durabilité. Voilà, c'est sûr que si on achète, je ne sais pas, de la nourriture ou des choses comme ça, ça ne peut pas être rentré. Les services ont donc procédé à l'acquisition des biens suivants qu'on vous propose d'inscrire en section d'investissement. Une perceuse visseuse pour 333,16 €. Un holster radar pour 94 euros l'unité, je crois qu'il y en avait plusieurs. Et des ventilateurs à 39,99 € l'unité, il y en a acquis plusieurs. Et ces biens sont bien entendu considérés comme des biens de faible valeur et donc ils sont considérés comme amortissables en un an et donc ils seront sortis de l'inventaire au 31 décembre 2022. Voilà, c'est juste pour pouvoir tenir un inventaire qui soit à jour et qui nous permette de récupérer la TVA sur ces petits biens d'investissement. On demande, mais ça nous d'approuver la délibération.
Des questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est celui des tarifs communaux pour 2022. Donc, on en a parlé un petit peu avec les services et puis avec Michel. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement par rapport aux tarifs 2021, sauf pour les tarifs cimetières, où en définitive, il y a des tarifications qui ont disparu. Ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est que il y avait des tarifs, par exemple, de droits funéraires, etc., qui ont disparu. Pour les concessions pleine terre, etc., vous les avez. On voit apparaître des vacations funéraires police, alors qu'avant, c'était globalisé. On a, en ce qui concerne les urnes funéraires, donc le columbarium à 760 euros et les cavurnes, c'est une nouvelle prestation à 760 euros également sur 15 ans, pour 15 ans. Et on avait aussi une tarification pour les plaques, jardins du souvenir, etc. Ça a disparu. Donc voilà, il y a une actualisation essentiellement sur les prestations, entre guillemets, cimetières. Pour l'ensemble des autres prestations, on n'a rien changé. Et pour différentes raisons, c'est que pour la plupart des services, les actualisations se font au 1er septembre. Donc, je pense pour le périscolaire, la cantine, l'école municipale des arts. Oui, on décide en mai-juin, mais avec un effet 1er septembre. Voilà. Voilà. Vous avez des questions par rapport à cette tarification, donc qui ne change pas, hormis ce qui gravite autour du cimetière ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc les tarifs sont reconduits, en particulier celui du cimetière, qui sont actualisés. Le point suivant, là c'est Michel également, qui va nous parler de la tenue de l'inventaire.
Oui, alors la délibération précédente était faite pour inscrire des choses à l'inventaire. Celle-ci est faite pour sortir les choses de l'inventaire et mettre à jour budgétairement l'inventaire. Donc, on vous a mis derrière toutes les sorties d'actifs du matériel qu'en fait qu'on a revendu par l'intermédiaire de Web Enchères. On a réussi donc qu'on a revendu un camion 4x4 Iveco, on a revendu un camion Iveco Ben, une balayeuse, la balayeuse donc qui a été remplacée par celle qu'on a achetée conjointement avec Villard. On a vendu différents articles et matériel et outillage et un démon de pneus. Voilà. Donc vous avez les sommes de ce qu'on a récupérer sur l'achat de ces matériels. Et après, vous avez effectivement, comme ce sont tous des biens qui étaient déjà amortis, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'années que le nombre d'années d'amortissement, sur tous les camions, ça s'est amorti sur 5 ans. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on a encaissé, c'est de la plus-value par rapport à l'inventaire. Et donc, après, vous voyez dessous les écritures comptables pour réussir à réinscrire donc ces sommes. Il y a tout un jeu entre le fonctionnement et l'investissement que je vous expliquerai pas parce que je me rappelle plus trop de la technique. Mais en fait, ça rentre en fonctionnement et ça rentre en investissement. C'est plus-value et après, c'est basculé en fonctionnement. Voilà. C'est pour ça que vous les trouvez deux fois en recette, une fois en investissement, une fois en fonctionnement et que après, vous retrouvez les dépenses en fonctionnement et le solde en investissement. Voilà. Donc, effectivement, on peut dire qu'on a récupéré la somme quand même de 25 080 euros, ce qui n'est pas négligeable, puisque normalement, souvent, ce qu'on faisait, c'était du matériel qui... voilà. Mais c'est fictif. Hein. Enfin, non, c'est pas fictif, je veux dire, mais ça rentre quand même dans l'actif. Et c'est intéressant, parce qu'avant, c'est du matériel qui souvent, on vendait ou qu'on déposait chez le garagiste. Et maintenant, par le système de web enchère, on arrive quand même à vendre du matériel. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, on vous demande aussi d'approuver, bien entendu, cette mise à jour de l'inventaire 2021.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, la mise à jour est validée à l'unanimité. Le dernier point, c'est celui du temps de travail des agents communaux. Donc, on en a déjà parlé. Et puis, on arrive en fin de chaîne d'un processus de consultation des représentants et des élus et des personnels. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47, vu le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif au congé annuel, vu le décret 2815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l'application de l'article 7.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, considérant l'avis du comité technique en date du 22 novembre 2021. Comité technique, je vous rappelle qu'il est paritaire il est plus paritaire, mais bon, c'est comme la commission administrative. Il est paritaire, il n'est pas à moitié-moitié, mais il est paritaire dans le sens où il est représentant des personnels et des élus. Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures, considérant qu'un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents, considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique, considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accompli. Je vous propose donc de définir en article 1 une durée annuelle du temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 36 heures 25 hebdomadaires, 36 heures 15 si vous préférez, calculée de la façon suivante. Donc vous avez un état, 365 jours de travail, 104 jours de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 2 jours les samedis et dimanches, le congé annuel 25 jours, les congés et autorisations d'absence mairie 6 jours, les jours fériés 8 jours, soit un nombre total de jours travaillés de 222, nombre de jours par 7h25, 1609 heures arrondies, 1609 heures 50 centièmes arrondi à 1609. Total en heures, y compris le jour de solidarité, 1609 heures. En ce qui concerne la définition du temps de travail, le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, est considéré comme du temps de travail effectif. Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles et notamment les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail, 20 minutes de pause après une séquence de travail de 6 heures. Le temps passé en mission, le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l'agent consacre à son déplacement la totalité du temps accordé, le temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l'agent et autorisée par l'administration, le temps d'intervention pendant une période d'astreinte, y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l'aller et le retour, les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical, des charges d'activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires, heures mensuelles d'information syndicale, le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel, pour les policiers municipaux, le temps consacré à l'armement et au désarmement. A contrario, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de pause méridienne, sauf exception, précisé précédemment, le temps de trajet domicile-travail, les astreintes et le temps d'habillage et déshabillage. Garantie minimale, l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins une période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Donc ça, c'est le nouveau règlement qu'on va vous demander d'approuver. Concrètement, suite donc au comité technique, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier? Pour la mairie, l'hôtel de ville, on va augmenter en fait d'1h15 le temps d'accueil. Ça sera donc en définitive 8h30, 12h15 et 13h, 16h30. Pour le centre technique municipal, qui fonctionne sur deux périodes, une période normale et une période estivale, l'heure 15 supplémentaire est intégrée dans ces périodes. Pour les écoles, la durée de travail est portée à 8 heures pendant les jours effectués en période de vacances scolaires, soit de 6 heures à 14 heures. Et donc, on va rajouter des temps de travail pendant les vacances scolaires, en l'occurrence, 2 jours de plus, parce que normalement, nos personnels font 40 heures par semaine, travaillent un certain nombre de jours pendant les vacances scolaires et bénéficient des restes en congé. Donc là, il y aura 2 jours de plus en février, 2 jours et demi à Pâques, 5 jours en juillet, 2 jours en août, 3 jours en Toussaint et 2 jours à Noël, pour arriver également au quota d'heures demandées. Les mercredis, les agents travailleront 3 mercredis dans l'année à raison de 7 heures par jour, soit de 6 heures à 13 heures. Pour le NEC, il n'y a pas de modification du temps de travail. Les 53 heures dues seront déduites des récupérations annuelles. Pour la crèche Castor et Pollux, le principe, c'est d'augmenter de 15 minutes par jour, comme pour la mairie. Pour Pégase, 1 heure sera ajoutée sur le poste de journée et 15 minutes sur le poste du soir, puisqu'ils travaillent en poste matin et soir. Bon, je vous passe ensuite les spécificités liées à la directrice adjointe du RIAP, où là, c'est 30 minutes sur le RIAP et 30 minutes sur Pégase, et ainsi de suite, donc en fonction des spécificités de chaque poste. Pour l'école municipale des arts, compte tenu du fait qu'un temps complet, c'est 20 heures, c'était difficile d'augmenter un temps pour que ce soit significatif. Donc, ce qui a été proposé, c'est la mise en place de créneaux supplémentaires sous forme de stages artistiques dans le cadre des périodes de cours et intégration des enseignants au projet artistique des écoles primaires. pour le pôle enfant-jeunesse. On retient également une augmentation du temps de travail de 15 minutes le mercredi et de 30 minutes le vendredi. C'est un petit peu la règle qu'on va définir. Et pour le centre de loisirs, c'est intégré dans les différents cycles, qu'ils soient hors vacances scolaires ou pendant les vacances scolaires. Pour l'entretien des locaux, c'est 15 minutes de plus par jour. Pour la médiathèque, c'est très spécifique puisqu'on a quasiment une typologie d'horaire par agent, compte tenu du fait qu'on a des agents à temps réduit. Donc là, les contraintes, on les a intégrées par poste. Qu'est-ce que j'ai d'autre après ? Pour les bâtiments, c'est donc, alors ça dépend des locaux, mais c'est en moyenne 15 minutes, donc en l'occurrence, pour le stade, ça sera le mercredi, jeudi, vendredi, et 30 minutes le mardi. Le gymnase, c'est 1 heure le mercredi. Les tennis, c'est 15 minutes lundi, mardi, vendredi et 30 minutes le jeudi. Et mairie et bâtiment annexe, donc 15 minutes par jour en termes d'entretien. L'école municipale des arts et le tennis, on est en entretien de bâtiment, c'est 15 minutes par jour. Et la police municipale qui a des horaires spécifiques sur 4 jours, ce sera 26 minutes par semaine sur les horaires du matin. Donc voilà comment on a réparti l'augmentation de ce temps de travail et comment ça a été validé par le comité technique. Avez-vous des questions par rapport à ça ? On avait l'option de dire on supprime des jours de congé et là c'était un refus quasi catégorique de l'ensemble des personnels. Donc on a opté par l'augmentation du temps de travail d'1h15 par semaine. Après, il y aurait pu avoir d'autres options comme à Métropole, hein, augmentation du temps de travail avec mise en place de RTT. La difficulté qu'on a, et vous l'avez bien compris, compte tenu de la multiplicité des situations, des horaires et des règles qui régissent nos différents services, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on aille dans le détail. Je remercie encore Frédéric Billon et les chefs de service et les agents qui ont joué le jeu donc, à l'occasion de 2-3 réunions, on a fait quand même, hein, pour en parler. Donc il y avait des attentes qui étaient un peu plus fortes de la part des représentants du personnel, évidemment. Ça a soulevé d'ailleurs d'autres problématiques qu'on va étudier maintenant pour 2022 sur d'autres aspects des situations. Donc voilà, on vous demande de valider cette mise en place des 1609 heures à partir du 1er janvier 2022. Et donc, la première mesure qui est déjà annoncée dans le futur magazine, c'est l'ouverture de la mairie, un quart d'heure de plus le midi. Des questions ?
Moi, j'ai une question, j'ai entendu, mais peut-être mal. Pour le centre de loisirs, l'augmentation est le mercredi et le vendredi. Je voulais savoir ce qui avait présidé au choix du vendredi. Autant le mercredi, comme ça, je me dis, c'est logique.
Alors, c'est le... Alors, attends, je retrouve mon papier.
C'est 15.
C'est les horaires d'ouverture. C'est le... Alors, c'est 15 minutes. On parle du secrétariat et de l'accueil, hein. Pas le temps de prise en charge des enfants. C'est 15 minutes le mercredi et 30 minutes le vendredi. Administration Conseil des Jeunes Séjour Famille, c'est pareil. 15 minutes le mercredi et 30 minutes le vendredi.
Rémi. Oui, Corinne, Rémi Mounier. On parle des horaires d'accueil au public. Donc on ne parle pas des horaires des permanents. Donc c'est pas sur l'accueil centre de loisirs enfants, c'est vraiment l'ouverture de l'accueil au public administratif.
Le mot centre de loisirs. Merci.
Non, pour le centre de loisirs, en fait, c'est intégré dans les périodes en fonction que c'est les vacances scolaires ou les mercredis. Et puis, on a d'autres problématiques pour les animateurs en tant que tels, les animateurs, je dirais, permanents. Où là, on a encore, sur certains aspects, en particulier les conséquences des accompagnements lors des séjours, on est encore en train de travailler sur une façon de mettre en place une compensation. D'autres questions ? Qui est contre ? On ne peut pas être contre le fait de demander à nos collaborateurs de travailler davantage. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc ce nouveau règlement est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. En ce qui me concerne, je n'ai plus de sujet à vous soumettre. Quelques informations. La réunion des adjoints et délégués qui était prévue lundi prochain est annulée, tout simplement faute de thématique et peut-être aussi en raison de l'absence d'un certain nombre. On a besoin peut-être de renforts vendredi à partir de 16h30 sur la deuxième séquence du marché de Noël pour les contrôles de passe sanitaire. Donc si certains d'entre vous sont disponibles à partir de 16h30 pour remplacer ceux qui ont eu très très froid vendredi dernier, qu'on puisse mettre en place une petite rotation, ce sera bien volontiers. Michel, j'avais pensé également à dimanche. Est-ce que vous avez suffisamment de personnes pour le contrôle des passes sanitaires pour l'accès à l'église? Ou est-ce qu'on peut solliciter quelques élus? Bien, Jacques, très bien. Voilà. D'accord, très bien. C'est bien. Et enfin, pour ceux qui y assistent, la réunion des chefs de service de demain 10h est au Clos Bayard et non pas ici. Oui. Mireille, t'as entendu? La réunion des chefs de service est au Clos Bayard, pas ici, demain matin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Le 11 janvier prochain, on maintient les vœux pour l'instant. Donc, vous savez qu'on a supprimé effectivement le Noël intergénérationnel, le réveillon solidaire, les vœux au personnel. Alors, par rapport, alors là, on sera hors verbalisation. Comme il n'y aura pas les vœux au personnel, on fera comme l'an prochain. On leur avait offert une petite boîte de chocolat. Ça avait été quelque chose de très, très apprécié par l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on va renouveler la démarche cette année. Et puis, on verra à quel moment on peut faire, alors non pas les vœux, mais les remises de médailles du travail et puis honorer les départs en retraite, sans doute au printemps. Quant aux vœux, on maintient donc pour le mardi 11 Honeck à 19h dans une forme simplifiée puisqu'il n'y aura que les vœux et pas le buffet qui normalement aurait dû suivre. Compte tenu des obligations posées par la préfecture à ce jour. Voilà. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une très bonne fête de fin d'année. Prenez des forces. Reposez-vous et pour ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver là-haut après. Voilà. Je vous remercie.